Bonjour à toutes et à tous, nous allons effectuer la correction au jour 13, donc du sujet très intéressant parce qu'il comporte plusieurs notions importantes en chimie sur l'aquarium récifal. Dans une première partie, cela nous permettra de réviser des grandeurs autour de l'acidité. Dans la deuxième partie, de réviser les titrages conductimétriques. Dans la troisième partie, de revoir la notion de synthèse, de rendement et de différentes étapes d'une synthèse. Et enfin, dans la dernière partie, de revoir tout ce qui concerne l'absorbance et la loi de Bière-Lambert. Alors, la première partie concerne la notion donc d'acidité. On demandait en question 1.1 d'indiquer ce qui peut être mis en œuvre si la valeur du pH devient trop élevée dans l'aquarium. Donc, si la valeur du pH devient trop élevée, il faut baisser le pH, c'est-à-dire introduire une espèce acide, par exemple en faisant buler du dioxyde de carbone gazeux dans l'eau de l'aquarium. Question 1.2, citer les propriétés d'une solution tampon et justifier l'utilisation d'une telle solution dans l'aquarium récifal. Donc, une solution tampon va avoir un pH qui varie peu par ajout modéré, bien sûr, hein, d'acide ou de base, ou par une dilution aussi modérée. Dans l'aquarium récifal, l'utilisation d'une solution tampon aurait l'intérêt de limiter les variations de pH. C'est important que le pH ne varie pas trop dans un aquarium. Question 1.3. En s'appuyant notamment sur les électronégativités des atomes, justifier la faible solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau. Donc pour ça, on avait les données en début sur l'électronégativité de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, ce qui va nous aider à conclure. Donc déjà, on constate que l'oxygène a une électronégativité plus élevée que le carbone, que l'atome de carbone, ce qui signifie que la liaison carbone-oxygène va être polarisée. Donc les deux liaisons carbone-oxygène du dioxyde de carbone CO2 vont être polarisés et l'atome de carbone va être porteur de charge partielle positive tandis que les atomes d'oxygène plus électronégatifs vont être porteurs de charge partielle négative. Cependant, on peut constater que la molécule de dioxyde de carbone est linéaire, ce qui signifie que le centre géométrique des charges partielles positives va être confondu avec le centre des charges partielles négative. Et donc on est dans le cas où la molécule est apolaire ou non polaire, où la molécule n'est pas polaire. Donc la molécule de CO2 n'est pas polaire. Au contraire, par le même raisonnement, l'oxygène a une électronégativité plus grande que l'atome d'hydrogène. Donc les liaisons OH de la molécule d'eau, les deux liaisons OH vont être polarisées. La molécule d'eau étant coudée, le centre géométrique des charges partielles positives et des charges partielles négatives de la molécule d'eau ne vont pas être placées au même endroit, ce qui signifie que la molécule d'eau est polaire. Et une molécule apolaire se dissout mal dans un solvant polaire. Ainsi, cela explique la faible solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau. Question 1.4. Indiquez parmi les espèces chimiques acido-basiques associées au dioxyde de carbone dissous, celles qui sont des acides de Brønsted et celles qui sont des bases de Brønsted. Donc on a deux couples mis en jeu qui sont CO2H2O aqueux slash HCO3- et HCO3- slash CO3-. Ce n'est pas demandé, mais HCO3- du coup est une espèce amphotère. Donc CO2H2O joue le rôle, donc c'est un acide. HCO3- et la base dans le premier couple, mais l'acide dans le deuxième couple, et CO3 de moins joue le rôle de base. En précisant, question 1.5, la démarche suivie, indiquez parmi les espèces acido-basiques associées au dioxyde de carbone dissous, celles qui prédominent dans l'aquarium récifal. Donc le pH de l'aquarium récifal, on nous dit, vaut 8,1, et est donc compris entre les deux pKa, pKa1 et pKa2. Ce qui signifie que c'est l'espèce donc amphotère HCO3- qui est l'espèce prédominante dans l'aquarium. On pouvait tracer, pour le montrer aussi visuellement, un diagramme de prédominance. Question 1.6. expliquer pourquoi l'utilisation d'un diffuseur de CO2, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans l'aquarium peut freiner la formation du squelette et de la coquille des coraux. Donc si on diffuse du CO2 qui est un acide, il va se transformer dans l'eau, donc en HCO3- et en H3O+, et donc ça va augmenter la quantité donc d'ion H3O+, et la formation de l'ion oxonium H3O+ va acidifier l'eau de l'aquarium, et plus le pH diminue, et moins les ions, donc CO3 de moins, seront présents en solution. Donc ça va diminuer la quantité d'ions carbonate CO3 de moins. Et si on a moins d'ions carbonate CO3 de moins, on va moins avoir la réaction de formation du carbonate de calcium qui se forme selon la réaction justement Ca2+ plus CO3 de moins donne CaCO3 solide. Donc la partie 2. Sur l'étitrage conductimétrique. Donc, question classique, on demande de justifier qualitativement, donc aucun calcul est demandé ici, l'évolution de la pente de la courbe lors du titrage. On constate qu'avant l'équivalence, la conductivité diminue légèrement et qu'elle augmente après l'équivalence. Donc, il faut faire un bilan des ions, puisque ce sont les ions qui sont responsables des variations de conductivité dans une solution. Donc, avant l'équivalence, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que on titre donc les ions chlorure par les ions argent et par le nitrate d'argent plus précisément. Et tous les ions comptent lors de la conductivité d'après la loi de Colroche. Et donc il faut regarder, faire un bilan de tous les ions. Donc on a des ions Ag+, on a des ions Cl- et on a des ions NO3- nitrate qui sont amenés justement à chaque ajout de nitrate d'argent. Lorsque l'on ajoute avant l'équivalence les ions argent, ils sont minoritaires et donc ils vont être consommés par la réaction de titrage Ag+ plus Cl- donne AgCl. Donc leur quantité avant l'équivalence est égale à 0. Lorsqu'on ajoute des ions nitrates par le nitrate d'argent dans le Bécher, ils vont s'accumuler et donc leur concentration va augmenter. Et lorsqu'on ajoute donc des ions argent qui réagissent avec les ions chlorure initialement présents dans l'eau testée, la quantité donc d'ions chlorure et la concentration va donc diminuer en ions chlorure. Et donc c'est comme si à chaque fois qu'un ion chlorure seulement a été consommé, un ion NO3- le remplacé était apporté. Et donc la conductivité, il faut comparer maintenant les conductivités molaire ionique des ions nitrate et Cl- pour pouvoir conclure. D'après les données, on constate que la conductivité molaire ionique des ions nitrate est inférieure, même si c'est légèrement inférieure à celle des ions chlorure. Ainsi, la conductivité du milieu va diminuer lentement, puisque donc les ions chlorure disparaissent et c'est eux qui avaient une conductivité plus importante que les ions nitrates qui les remplacent et qui ont une conductivité molaire ionique plus faible. Au-delà de l'équivalence, on n'a plus d'ions chlorure, mais on va rajouter donc des ions Ag+ et des ions NO3- qui vont s'accumuler dans le milieu et contribuer ainsi à l'augmentation de la conductivité. Question 2.2. Indiquer si un traitement de l'eau est nécessaire à l'issue du contrôle de la salinité. Et donc on a les phrases là en italique habituelles. Le candidat est invité à prendre des initiatives, à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée. Donc lorsqu'on a un titrage, on sait qu'on part toujours de la relation à l'équivalence, et cette relation fait intervenir des quantités de matière petit n. Donc à l'équivalence, on sait que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On est dans un cas simple puisque c'est un ion Ag+ qui réagit avec un ion chlorure Cl-, et donc à l'équivalence, la quantité de Ag+ va être égale à la quantité donc de Cl-. On se rappelle aussi comment on détermine le volume équivalent lors d'un titrage conductimétrique. On détermine le volume à l'équivalence grâce à l'intersection des deux demi-droites qui modélisent l'évolution de la conductivité. Et donc, on lit sur la courbe un volume équivalent d'environ 10,5 ml. Donc, à l'équivalence, Nag plus versé va être égal à NCl- initial, or N égale C fois V, ce qui va nous donner une relation entre la concentration, le volume de Ag+ versé à l'équivalence et la concentration de Cl- que l'on recherche et le volume initial de l'eau titrée. En retournant l'équation, on va avoir donc que CCl- égale CAg+ fois V équivalent sur V. En remplaçant, on a donc que CCl- égale à 5 10-2 fois 10,5 sur 10, ce qui nous donne 5,25 10-2 mol par litre dans les 10 ml d'eau diluée de l'aquarium. Mais l'eau de l'aquarium avait été diluée donc d'un facteur 10, donc l'eau de l'aquarium est 10 fois plus concentrée que ce qui a été titré. Donc le C recherché est donc de 0,525 mol par litre. On calcule enfin la concentration massique qui correspond par la célèbre formule à bien connaître qui est très utile. Cm égale à C fois grand M. Cm donc c'est C0,525 qu'on vient de déterminer et la masse molaire de l'ion chlorure 35,5. Ce qui donne une concentration massique de 18,6 grammes par litre. Or, on nous dit que pour l'aquarium récifal, il faut une concentration massique qui doit être comprise entre 19,3 et 19,6 grammes par litre. Ainsi, il apparaît nécessaire de procéder à un traitement de l'eau de l'aquarium. Donc, partie 3. Donc, question 3.1.1. Justifiez que la molécule B se nomme méthanal en nomenclature officielle. Donc, la formule développée de la molécule B, donc c'est C, double liaison O et puis deux hydrogènes de chaque côté du carbone. On reconnaît le groupe caractéristique carbonyle. Avec un seul atome de carbone, ce ne peut pas être une cétone. Il s'agit donc d'un aldéhyde avec le H, avec au moins H en bout de chaîne. Donc, ce qui signifie que son nom va finir par al. Comme il y a un seul atome de carbone, le préfixe c'est méth, et donc il s'agit bien du méthanal, donc du méthanal. Question 3.1.2, donner la formule semi-développée puis brute du réactif C. Donc attention sur le cycle à ne pas mettre des hydrogènes en trop et à bien faire qu'à chaque fois chaque atome de carbone possède bien 4 liaisons covalentes. Et ainsi on établit après la formule donc semi-développée la formule brute qui est C7H12O2. Question donc 3.1.3, déterminer le produit F. En s'appuyant sur les formules brutes des espèces chimiques mises en jeu. Donc, on avait déjà différentes formules brutes. On additionne toutes ces formules brutes. Ça donne le produit qui nous intéresse plus une autre molécule qui est la molécule F. Donc, on compte le nombre d'atomes de chaque élément chimique du côté des réactifs et on sait qu'il va être égal aussi du côté des produits. On compte 21 carbones, 34 hydrogènes, 5 oxygènes et 2 azotes. Par conservation donc des nombres d'éléments chimiques, on trouve que la molécule F est donc de l'eau de formule H2O. Question 3.1.4, déterminer le rendement de l'étape 2. On se rappelle la définition du rendement importante, c'est la quantité expérimentale sur la quantité maximale ou théorique qu'on aurait obtenue si la transformation de synthèse considérée était totale et sans perte. Alors pour calculer, on peut avoir accès à la quantité de matière expérimentale réellement synthétisée ici. Donc on a la masse, donc pour calculer la quantité de matière petit m sur grand M, donc ce qui fait 40,9 sur 376,5 sur donc on nous disait aussi que la quantité de matière maximale donc, est forcément liée aux réactifs et qu'ils étaient tous introduits avec une quantité de matière de 0,110 mol. En faisant donc le rapport de ces deux quantités, on en déduit donc que le rendement est d'environ 98,8%, ce qui est un excellent rendement proche de 100%. Question 3.2. Donc l'étape A où on fait réagir les réactifs ensemble et il y a un des réactifs qui est sous forme solide dans lequel on le met après en solution. Donc l'étape A fait intervenir de la dissolution et en même temps c'est la transformation chimique où on met les réactifs ensemble pour qu'ils puissent réagir et former les produits qui nous intéressent. L'étape C où on a un lavage de la phase organique et après séchée et évaporée. Il s'agit donc d'une étape de séparation. Question 3.2.2. Nommer une méthode d'identification possible pour le solide obtenu. Il en existe de multiples méthodes. On peut par exemple étudier le produit par spectre infrarouge ou UV, mais également par chromatographie sur couche mince et comparaison avec le produit pur qu'on souhaite obtenir par CCM. Mais également, on peut mesurer grâce au banc Kofler la température de fusion du produit qui nous intéresse. Enfin, partie 4, on nous dit justifier l'intérêt de l'étape de filtration. Alors, on nous dit que le charbon actif se présente sous la forme d'une poudre noire, et cette poudre noire dans la solution pourrait absorber une partie de la lumière qu'on va envoyer dans le spectrophotomètre, et donc fausser le dosage par mesure spectrophotométrique, hein, par mesure d'absorbance. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de filtrer pour ne pas avoir de problème de ce côté-là. Question donc 4.2. Montrer que la masse de colorant absorbé par gramme de charbon actif est voisine de 7 mg. Donc grâce à la figure 3, on va pouvoir tracer la droite moyenne qui passe au plus près de tous les points. Et on va lire la concentration donc avant traitement et après traitement pour savoir justement la masse de colorant qui a été absorbée. Donc quand on regarde, on a avant et après traitement 15 mg respectivement par litre et 2 mg par litre, ce qui veut dire que pour 100 mg, c'est-à-dire 0,100 g de charbon actif, la concentration massique a diminué d'environ 13 mg par litre. Ce qui correspond donc à une masse. Donc on se rappelle de la relation qui nous donne la concentration massique, c'est la masse de soluté sur le volume de la solution, ce qui veut dire que la masse c'est la concentration massique fois le volume de la solution. La concentration massique, on vient de le dire, c'est 13 mg par litre, donc 13 fois 10 moins 3 g par litre, fois 50 10 moins 3 pour le volume, 50 ml en litre, ce qui nous donne une masse de 6,5 fois 10 moins 4 g. Donc 6,5 10 moins 4 g correspond à une masse de charbon actif de 0,100 g, ce qui veut dire pour 1 g on aura 10 fois plus, c'est-à-dire 6,5 fois 10 moins 3 g, ce qui correspond à l'arrondi supérieur à l'entier à environ 7 mg. Enfin, sachant qu'un traitement préventif de l'aquarium de volume V égale 8 000 litres nécessite 1 à 2 mg de bleu de méthylène par litre d'eau, calculez la masse de charbon actif nécessaire afin de réaliser le traitement pour cet aquarium récifal. Commentez. Donc la masse maximale, comme on a 2 mg au maximum de bleu de méthylène par litre d'eau, ça fera une masse donc pour les 8 000 litres donc de 2 fois 8 000, c'est-à-dire 16 000 mg, ce qui correspond à 16 grammes. On a vu à la question précédente qu'un gramme de charbon actif permet d'éliminer 7 mg de bleu de méthylène. On va faire un produit en croix, une proportionnalité, afin de savoir pour 16 000 mg combien de grammes de charbon actif correspondent. Donc par proportionnalité, ça nous donne donc 2,3 fois 10 puissance 3 grammes, c'est-à-dire 2,3 kg. Cette masse est élevée, certes, mais le volume est aussi très important dans cet aquarium récifal puisqu'il fait 8 000 litres. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.